Bonsoir à tous. Nous accueillons ce soir Abdennour Bidar et nous en sommes ravis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Abdennour Bidar, vous venez ce soir nous présenter votre dernier livre paru aux éditions Albin Michel. Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui ? Je vais faire une présentation très brève de votre parcours, mais c'est quand même nécessaire pour ceux qui ne vous connaissent pas ou peu. Vos premiers écrits remontent à 2004. Vous aviez commencé avec Un islam pour votre temps.
Pour notre temps.
Oui, Un islam pour notre temps. Deux années après, vous écriviez Self-Islam. Et vous avez ensuite continué d'écrire quelques ouvrages autour de la thématique de l'islam, notamment aussi un ouvrage qui reprenait un petit peu l'œuvre de Mohamed Iqbal, qui est un réformiste pakistanais sur lequel vous aviez fait une thèse. Et ensuite, vous avez continué à écrire, me semble-t-il, en sortant un petit peu du domaine propre à l'islam et en vous ouvrant sur les thématiques plus religieuses, avec notamment comment sortir de la religion. Et petit à petit, surtout depuis 2015, depuis Plaidoyer pour la fraternité, vous êtes sur une écriture qui est peut-être plus, qui se veut plus universelle. Et le livre que vous nous présentez ce soir en est la preuve. Car quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui ? En fait, à travers ce livre, ce que vous faites, c'est que vous présentez 30 valeurs essentielles, 30 valeurs communes à l'humanité. L'idée, c'est de recréer un lien entre les héritages spirituels, philosophiques, entre l'islam, l'Occident. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 30 valeurs, alors on y trouve la fraternité, qui est une valeur chère à votre cœur, dont nous allons parler ce soir, évidemment. On y trouve aussi la compassion, la droiture, la justice, le courage. Donc, c'est vraiment autant d'exercices spirituels qui peuvent s'adresser à l'individu, à la personne que nous sommes, pour... Mm-hmm. évoluer, enrichir son être intérieur et qui est, c'est votre thèse, qui sont surtout des valeurs communes indispensables selon vous actuellement dans une France, comme vous dites, devenue multiculturelle où effectivement le vivre ensemble est devenu quelque chose de difficile à atteindre. Ce sont donc autant de valeurs que chacun peut développer personnellement et qui tissent un lien entre les individus, qui crée une réelle harmonie, en fait. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous avez organisé ces différentes valeurs. Elles ne sont pas pêle-mêle. Je trouve qu'il y a quand même une ligne directrice qui va de valeurs propres à l'intériorité, dans une première partie qui s'appelle « Culture de la sensibilité et culture du jugement », jusqu'à des valeurs qui sont plus dans l'extériorité, dans l'ouverture à l'autre, à travers une deuxième partie intitulée « Culture de la règle et du droit » et « Culture de l'engagement ». Donc la thèse, me semble-t-il, et l'idée derrière ce livre, c'est qu'en fait, il existe un bien commun qui est transversal et donc qui est aussi un sacré pied de nez, comme vous dites aussi, au relativisme culturel dont vous mesurez les dégâts depuis quelques années. En fait, d'une manière donc assez générale, en guise de première question, quelle était votre idée, quel était votre projet quand vous avez écrit ce livre ?
Bon, alors mon projet... Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Quelle était l'ambition ? Alors, vous savez, l'ambition, quand on écrit un livre, il y a une ambition au début et ce n'est pas forcément la même à la fin. Bon, parce qu'écrire un livre, c'est un véritable travail par lequel la réflexion, quel que soit son état au départ, eh bien, cette réflexion s'approfondit et des fois se déplace et on prend conscience d'un certain nombre de choses au fur et à mesure qu'on écrit. Bon, là... mon ambition initiale s'est confirmée, vous l'avez d'ailleurs en partie explicitée ou dévoilée. Nous sommes dans une société, je ne vous apprendrai rien, qui est de plus en plus incrédule ou sceptique au sujet de notre capacité à fabriquer du commun et à nous retrouver autour de quelque chose de partageable, véritablement. par-delà ce qui nous empoisonne la vie tous les jours, c'est-à-dire la saturation de notre espace mental et de notre espace public et de notre espace médiatique par le rappel continuel de nos différences, de nos identités, c'est-à-dire de tout ce qui nous sépare. Donc, voilà pourquoi nous sommes incrédules ou voilà pourquoi nous sommes sceptiques. On nous assène, et nous nous assénons nous-mêmes tellement la persuasion que nous serions trop différents pour nous rassembler, trop différents pour nous retrouver, que au moment de penser qu'on peut peut-être avoir des valeurs partageables, alors là, vraiment, ça n'éveille aujourd'hui que beaucoup d'incrédulité. À ceci s'ajoute le fait, tout aussi préjudiciable pour nous tous, pour notre vivre ensemble, s'ajoute le fait que nos sociétés sont exposées à ce que j'appelle souvent, je ne sais pas quelle est la première fois que j'ai dit ça, c'était peut-être dans mon petit plaidoyer pour la fraternité il y a un an, un peu plus d'un an, nos sociétés sont exposées à ce que j'appelle donc des forces centrifuges, hein, c'est-à-dire des forces qui n'ont d'autre action que de dissoudre à peu près complètement, comme un très puissant acide, la cohésion de notre corps social. Depuis le début de la modernité, le mal endémique des sociétés, notamment occidentales, c'est l'individualisme. Bon, eh bien, cet individualisme continue d'être opérant pour écarteler ou pour atomiser nos sociétés. On a de plus en plus de mal à en jeter la pierre à l'individu, de cet individualisme, c'est-à-dire à l'accuser d'être individualiste ou égoïste, étant donné que la contrainte économique qui pèse sur nous tous est tellement puissante que finalement la plupart des individus n'ont pas tellement d'autre choix que de penser d'abord à eux-mêmes, c'est-à-dire de penser de gratter la tête pour essayer de savoir comment ils vont faire pour joindre les deux bouts, payer leurs crédits et payer leurs impôts. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas, je crois, dans une société, dans une civilisation qui est gouvernée de telle façon qu'elle puisse permettre à l'individu, donner véritablement à l'individu les moyens de penser à autre chose qu'à lui-même. Et donc, dans cette situation sociale où tout nous encourage, bon, c'est un encouragement maudit, hein, je dirais, tout nous encourage au chacun pour soi et au chacun chez soi, eh bien, il faut être décidément bien philosophe, mais dans le sens, je le dis ironiquement, il faut être bien idéaliste et bien naïf pour oser espérer penser et pour oser proposer qu'on puisse malgré tout, peut-être, si, songer à partager quelque chose. Non seulement y penser, mais en plus y travailler collectivement. Et donc, c'est, j'ai véritablement l'impression que c'est à rebrousse-poil ou à contre-courant complet qu'avec quelques autres idéalistes forcenés, eh bien, je continue d'affirmer, et plus que jamais, parce que justement, la nécessité fait loi, et nous sommes dans une situation d'urgence, tant les forces sont puissantes qui écartèlent nos sociétés, eh bien, je continue de penser que c'est le moment pour dire qu'il y a des choses qui peuvent et qui doivent nous rapprocher, il y a des choses que nous pouvons partager. Mais le partageable et le commun, on ne peut pas le sucer de son pouce, hein, il faut le construire, il faut aller le chercher là où il est. L'universel ou l'universalisable ne se décrète pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher, vous l'avez dit, un certain nombre de valeurs. On pourrait, non pas en réciter la liste exhaustive, il y en a 30 dans le livre, et la liste elle-même n'est pas exhaustive, la liste des 30, mais on pourrait en mentionner quelques-unes de ces valeurs. Alors, ce sont des valeurs qui sont autant, peut-être qu'on y reviendra, qui sont autant de vertus. C'est-à-dire qu'une valeur, pour moi, le désavantage ou l'inconvénient du terme de valeur, c'est qu'il indique une espèce de chose qui flotte comme ça, comme un nuage au-dessus de nos têtes, alors que la vertu, ça se pratique. Hein. Et je crois que la manière de faire entrer la valeur dans le réel, c'est de la pratiquer comme vertu. Voilà. C'est-à-dire comme conduite de vie, comme idéal qu'on donne à une vie pour qu'elle ait sa cohérence, pour qu'elle ait sa solidité, pour qu'elle ait sa dignité aussi, hein, et qu'on se mette à pratiquer un petit peu plus tous les jours. Alors parmi ces vertus, parmi ces valeurs vertus, il y a, on en citera, l'humilité, le pardon, la simplicité, le courage, la persévérance, etc. etc., etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque, comme je vous le disais, l'universel ne se décrète pas, je suis allé voir dans les différents bassins de culture, c'est-à-dire dans les différents héritages. Tiens, encore quelque chose dont j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup oublié aujourd'hui, nous sommes des héritiers, les uns et les autres, d'un certain nombre de cultures. Hein, bon. Et donc je suis allé voir comment les différentes cultures éthiques, comment les différentes cultures humanistes de l'humanité pouvaient entrer en résonance les unes avec les autres, dans une logique qui est une logique qui n'est pas de montrer que tout le monde dit la même chose, bien entendu, chacune de ces cultures humanistes, chacun de ces héritages a son génie propre, mais ils entrent les uns avec les autres, grâce à ce génie propre de chacun, dans une logique, qui est une logique de contribution collective, à nous faire réfléchir sur quelques grandes vertus nécessaires à la conduite d'une existence humaine. Et quelle n'a pas été ma surprise, mauvaise surprise, de me rendre compte que dans la plupart de nos traités d'éthique, de nos traités de vertus, les références sont des références exclusivement occidentales. C'est-à-dire nous sommes terriblement ethno-centrés, occidentalo-centrés. Hein. Ouvrez un livre, ouvrez un petit traité des grandes vertus, non, je ne citais personne, et vous vous rendrez compte à quel point eh bien, y a une espèce comme ça d'auto-référencement qui, au bout d'un moment, menace de devenir mortifère. Hein. Et donc j'ai voulu ouvrir le champ, hein, je crois que c'est nécessaire aussi aujourd'hui, parce que si la mondialisation doit avoir lieu, ça ne peut pas seulement être la mondialisation d'économie ou des échanges, mais nécessairement aussi le partage de la culture et de ce que chaque culture a de meilleur, hein, de plus universalisable. Et donc j'ai cité aussi bien Confucius que Chuang Tzu, que Krishnamurti, que Gandhi, que, etc., pour montrer que bien, souvent le choc entre les cultures, c'est le choc des ignorances. Choc des ignorances. Voilà, c'est-à-dire souvent on ignore beaucoup sa propre culture et on ignore à peu près tout de la culture de l'autre et à partir de là on se coupe les pattes, c'est-à-dire qu'on s'interdit la possibilité de se rencontrer parce qu'on ne va pas chercher chacun dans sa culture ce qui permettrait de rencontrer l'autre, justement sur de l'universel, mais de l'universel en acte, c'est-à-dire de l'universel qui a été montré par la référence à quelque chose qui effectivement nous rapproche. Quand vous lisez, par exemple, je vous donne juste un exemple. Je me suis rendu compte, moi je suis de culture musulmane, enfin culture musulmane, c'est un des éléments de ma culture, je suis nourri autant à Spinoza qu'à Ibn Arabi. Hein, donc, bon. Mais je me suis rendu compte en écrivant ce bouquin que j'étais très confucéen, je ne savais pas.
Vous citez beaucoup
Confucius. Je cite beaucoup Confucius. Je songe à une conversion, là il va falloir que... Non, je plaisante. Hein. Mais je cite beaucoup Confucius et c'est là que je vois de l'universel, c'est-à-dire que Confucius s'interroge déjà sur ce qui est notre quadrature du cercle de tous les jours. Confucius s'interroge déjà sur la manière de lier l'individu et la société, c'est-à-dire de penser ensemble le « je » et le « nous ». Et il s'efforce de montrer qu'entre l'intérêt particulier, l'intérêt personnel que je peux avoir, moi, l'être humain, et l'intérêt collectif, il n'y a pas de contradiction. Mais qu'au contraire, plus l'individu travaille au bien de la communauté, plus il est capable de se soucier de l'intérêt général ou du bien commun, plus il en retire de bénéfices. Et plus une société travaille à ce que chacun, sans exclu ni privilégié, bénéficie de la prospérité et de tout ce que cette société a à offrir, et bien plus la société est puissante. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt réciproque, il y a une interaction heureuse et un intérêt réciproque, donc, entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Bah, c'est justement ce qu'on a à redécouvrir dans nos sociétés. Voyez, quand je disais tout à l'heure, je parlais de l'individualisme comme mal récurrent et caractéristique des sociétés modernes, lorsque Norbert Elias, un des plus grands sociologues du XXe siècle, écrit un livre qui s'appelle « La société des individus », il a posé l'équation de la modernité. C'est-à-dire que nous avons créé des sociétés qui sont des sociétés des individus, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'individu est persuadé qu'il doit chercher son bonheur propre et que cela doit se faire dans une situation générale qui est une situation de compétition généralisée. C'est-à-dire qu'on est persuadé par ce fond d'écran de préjugés anthropologiques, ce fond d'écran selon lequel, eh bien, pour que chacun y arrive, il faut nécessairement se battre, les uns contre les autres. Voilà, bon, ben... Donc ce sont des choses par lesquelles on est vraiment directement concerné. L'ironie est que je me suis rendu compte que celui qui nous parlait le mieux de nous-mêmes, c'est quelqu'un qui non seulement a vécu à l'autre bout de la planète, mais qui a vécu à l'autre bout de la planète il y a des millénaires. Vous voyez ? Donc j'aimerais que dans nos sociétés, pour qu'au moment où nous voulons partager quelque chose de commun, nous nous rappelions que nous, les êtres humains, nous sommes tous face au même questionnement. D'ailleurs, ça, c'est aussi, si je peux me permettre, je continue, parce que là, je suis un peu lancé, là, je suis chaud, là. Un autre parti pris du livre, comme le parti pris donc, d'aller chercher en dehors des frontières de notre univers éthique occidental, occidentalo-centré, un autre parti pris, c'était vraiment de travailler sur la morale en philosophe. C'est-à-dire que je ne considère pas en tant que philosophe que la morale ou la religion ont cette vertu et cette légitimité de nous apporter des réponses. Je ne pense pas. Je pense qu'elle nous aide à nous poser des questions. Et elle nous aide à approfondir nos questionnements. Et qu'elles ne sont utiles et légitimes et fécondes qu'à partir du moment où elles nous, à la fois, elles nous permettent d'approfondir nos questionnements essentiels et où elles nous laissent parfaitement libres et responsables personnellement de la réponse que nous allons apporter à telle ou telle de ces grandes questions. Je prends un exemple de vertu que je mobilise ici, la vertu du pardon. Est-ce qu'il y a une question plus universelle que celle du pardon? Savoir pardonner ou savoir demander pardon, c'est une expérience humaine. On ne peut pas traverser une vie d'être humain sans avoir été confronté à cette difficulté du pardon. Savoir si je peux attendre de l'autre qu'il me pardonne quand je l'ai blessé ou quand je lui ai fait violence. Qu'est-ce que je peux attendre de lui? Et faire l'expérience de mon côté que j'ai du mal à pardonner. Et me poser donc la question, ce cas de conscience, est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois toujours pardonner? Est-ce que tout est pardonnable? Et quand je n'arrive pas à pardonner, à quoi est-ce que ça me renvoie? Nécessairement avec humilité, à un certain nombre de mes limites, de mes incapacités. Tiens, l'humilité, c'est une autre notion que j'aborde. Vous voyez, donc je fais référence à des expériences qui sont des expériences universelles, dans lesquelles, moi, l'être humain, je souffrirai difficilement, c'est-à-dire je supporterai difficilement qu'autrui m'impose une vérité, comme s'il la détenait, cette vérité. Il me dit, tu dois pardonner, tu dois toujours pardonner. Ok? J'examine par exemple ce que dit Vladimir Yankélévitch à propos du pardon. Vous savez, cette fameuse phrase de Yankélévitch est extrêmement puissante. Donc, il a écrit quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Yankélévitch dit: Le pardon est mort dans les camps de la mort. C'est fort comme phrase. Mais ce n'est pas parce que c'est Yankélévitch qu'on doit dire oui. Ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas une vérité définitive. Voilà pourquoi on va chercher la culture, si vous voulez. Voilà pourquoi on va chercher ce qu'ont dit les grands esprits avant nous, pour examiner un certain nombre de propositions de sens de la façon la plus, j'irais presque la plus dure, c'est-à-dire en se confrontant à ce qu'elles ont, ces questions de sens, de plus difficiles, dans les moments où ces questions de sens se sont posées de la façon la plus douloureuse. En l'occurrence, Vladimir Yankélévitch est juif. Et il écrit après la tentative d'extermination radicale des Juifs d'Europe de l'Est par le nazisme. Donc sa parole, elle a un certain poids, vous voyez, il n'écrit pas à n'importe quel moment. Et donc là, dans cette blessure ouverte, absolument, face à cette monstruosité, la monstruosité de ce qui s'est passé, il interroge la question du pardon et notre capacité à pardonner. Voilà, mais il le fait en philosophe, il ne le fait pas en imposant quelque chose, mais en nous faisant une proposition de sens forte qui nous oblige à nous positionner personnellement par rapport à ça. Et moi, est-ce que je crois qu'il y a, moi l'être humain, est-ce que je pense qu'il y a de l'impardonnable? Et vous voyez que ce qui est difficile, c'est que cette question-là, me semble-t-il, hein, ne peut pas être tranchée de façon générale. C'est-à-dire que c'est dans chaque situation où chacun de nous est engagé que la question est remobilisée et reposée à nouveau, toujours à nouveau. Moi, je ne peux pas dire, par exemple, d'ici, tiens, voilà, bah, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je pardonnerai tout le mal qu'on va me faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tant que je ne suis pas confronté à une situation dans laquelle, effectivement, un mal m'est fait. Ou à l'autre situation dans laquelle, là, je ne subis pas le mal, mais je commets le mal. Hein, la grande distinction que faisait Paul Ricoeur dans sa petite conférence sur le mal, entre le mal subi et le mal commis. C'est dans le moment de la confrontation à tel mal, dans telle situation où je suis confronté à tel mal, un mal que j'ai commis ou un mal que j'ai subi, que là se pose la question du pardon. Et j'aimerais, alors là, il est là pour moi l'enjeu du livre en fait, c'est que, vous voyez, dans notre société, où, comme je le disais au départ, c'était peut-être un peu brutal de dire ça comme ça, mais comme je le disais au départ, on est accablé par le constat de nos différences. C'est-à-dire, on est dans une société qui est partie tellement dans tous les sens, vous voyez, qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus du tout, qu'on a perdu toute chance et toute espérance de se retrouver autour de choses fortes, de partager des choses fortes. Voyez. Et si donc, c'est pas l'alpha et l'oméga de la solution, hein, je ne suis pas en train de dire que j'ai une baguette magique, mais si on arrivait à se retrouver dans un partage d'humanité, Un partage d'humanité qui n'est pas simplement un truc cuicui les petits oiseaux, aimons-nous. Non, un partage d'humanité parce que une solidarité face à des questions essentielles. Une solidarité humaine face à des engagements essentiels qui nous convoquent ou qui nous sollicitent. Quand, par exemple, je dis dans le livre, j'en parlais tout à l'heure, je prends la notion de courage. Notion de courage. Aujourd'hui, regardez les vidéos qui changent la jeune génération. Moi, j'ai des fils qui ont une vingtaine d'années. Le courage, c'est le mec qui saute dans la stratosphère pour aller atterrir au sol, je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres plus bas. Ça, c'est du courage. Qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du courage et pas simplement de la témérité, de l'audace, voire qu'il n'y ait pas simplement un peu de bêtise ou de pulsion suicidaire plus ou moins consciente? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du courage dans une vie humaine? Ben, là-dessus, là encore, les sages sont unanimes. Et je ne parle pas d'une sagesse qui serait une sagesse religieuse, une sagesse éthique. Les sages sont unanimes. Pour qu'il y ait du courage, il faut un certain discernement de ce qui est juste et de ce qui mérite donc qu'on se batte pour lui ou qu'on tienne bon pour lui. Voilà. C'est-à-dire que le courage, certains disent que le courage est même la synthèse de toutes les vertus, parce que si je le dis en langage d'Aristote, en langage aristotélicien, vous savez, dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote distinguait des vertus morales et des vertus intellectuelles. En réalité, c'est-à-dire des vertus théoriques et des vertus pratiques. Bien, le courage est la synthèse des deux. En quel sens? Au sens où ça suppose un exercice de l'esprit avant d'agir, le courage, un exercice de discernement. Qu'est-ce qui, dans la situation présente, exige de moi que je tienne bon ou que je m'engage? Voilà à quelle question préalable est suspendue la possibilité du courage. Bon, regardez dans le livre, vous verrez que les uns et les autres passent par des voies différentes, mais qu'ils arrivent tous à ce constat-là. Hein, que le courage, c'est pas simplement de se lancer en avant dans le vide. C'est pas aussi simple que ça. Vous voyez? Ça suppose de se poser la question du juste. Alors, ça aussi, sur le plan moral, quelle civilisation, quelle culture n'a pas tourné autour de la question de ce qui est juste? Je cite par exemple, je vous cite ça pour vous donner des exemples, parce que c'est bon, ça, on va voir comment tout ça s'incarne. Je cite le Zoroastre. Alors, Zoroastre, qui c'est? On a des passages de Zoroastre qui ont été regroupés sous le titre de Gatha, Gatha. Bon, les Gathas de Zoroastre, c'est une littérature qui a pour origine la Mésopotamie et qui date de, alors même s'il y a un flou, de 1700 ans à peu près avant Jésus-Christ. Bon. Et on en fait une matrice de beaucoup de thématiques des différents monothéismes. Et Zoroastre, qui est donc une espèce soit, je ne sais pas si je dois dire un prophète, un prêtre, un théosophe, bon. Zoroastre prie un dieu qui s'appelle Ahura Mazda, et c'est furieusement moderne. C'est-à-dire qu'il ne demande pas à Ahura Mazda de lui donner la paix, la santé et la prospérité. Il demande à Ahura Mazda, qui est le dieu de la justesse, il lui demande de l'aider à trouver le discernement de ce qui est juste. C'est-à-dire qu'en fait, il lui demande de l'aider à être libre et à décider et à déterminer et à discerner et à faire librement ce que sa conscience va juger juste. Vous voyez, c'est étonnant ce rapport avec le divin qui est pas, c'est pas un rapport du tout de soumission. Il demande au divin de lui inspirer un discernement de ce qui va être juste. Bon. Et à partir de là, dans les Gathas, il y a une interrogation sur ce qu'est le critère de la conduite juste. Et il va faire des développements là-dessus qui sont assez intéressants. Mais plus que les réponses, c'est, vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en évidence vraiment la l'universalité du questionnement.
Est-ce que justement, il ne vaudrait pas aussi réapprendre ces valeurs au sein de chaque tradition religieuse? C'est-à-dire que on a l'impression que vous, entre guillemets, vous sortez de la religion du religieux vers une voie qui serait alternative, une voie humaniste donc issus de différents héritages spirituels. Est-ce que, mais je sais que c'est le travail que vous avez essayé de faire avec l'islam, est-ce que ce qui serait intéressant aussi aujourd'hui, ce ne serait pas de redonner aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs et aux personnes qui pratiquent une religion ces éléments qui sont humanistes, qui sont présentes dans chaque tradition mystique? Est-ce que vous êtes vraiment en dehors de tout dogme religieux? Ou est-ce que voilà, est-ce que vous comprenez le sens de ma question?
Oui. Oui, non, en fait, je suis vraiment philosophe, je suis pas imam. Mais alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre, peut-être en remontant à ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai écrit quand j'ai commencé à écrire mon premier texte publié, c'était dans la revue Esprit en 2003. Ça s'appelait La lettre d'un musulman européen. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à travailler, ensuite j'ai fait 4 ou 5 livres sur l'islam, pourquoi est-ce que j'ai commencé à travailler sur l'islam? Tout simplement parce que je suis de culture musulmane, que j'espère toujours avoir une compétence de philosophe, la plus classique qui soit, je dirais, et que à partir de 2001, j'ai compris, donc les attentats des tours jumelles hein, à New York, j'ai compris qu'il y avait quelque chose autour de l'islam qui était en train de se nouer de très très grave et de très très important pour, allez, n'ayons pas peur des mots, la civilisation humaine. Voilà. Et depuis, ça s'est confirmé. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, que ce soit à l'échelle française ou évidemment sur le plan géopolitique, à l'échelle mondiale, beaucoup de choses qui se crispent autour de la relation très difficile que le monde musulman entretient avec lui-même et avec l'extérieur. Et donc je me suis senti, en tant que philosophe et en tant que je suis de culture musulmane, je me suis senti une vraie responsabilité. Pourquoi? Parce que j'entendais des déclamations, j'entendais deux types de déclamations. La première déclamation, c'était l'islam est incompatible avec la modernité, etc. La deuxième déclamation, tout aussi peu argumentée, était l'islam est compatible avec, alors on faisait la liste, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, la modernité, etc., etc. Et moi, connaissant un peu la tradition de l'islam, j'ai travaillé sur des réformistes musulmans, bon, notamment Mohamed Iqbal, que personne ne lit, ni du côté musulman, ni du côté non musulman, ici en Occident, bon, peu importe. Je me suis rendu compte que non, on n'avait pas à être ni trop sévère ni trop généreux, mais que simplement tout restait à faire. Tout restait à faire, c'est-à-dire que quand on voit l'état de la pensée, l'état de la pensée musulmane et l'état de la culture musulmane, bon, la compatibilité avec un certain nombre de grandes valeurs de la modernité est possible, mais elle est à faire, elle est à construire. C'est-à-dire que là encore, hein, c'est une question d'universel qui se décrète pas, mais qui se tricote. Il faut tricoter, faut nouer, voilà. Il faut créer des ponts. Et bon, moi j'ai essayé de le faire sur le plan philosophique, c'est-à-dire il faut que la pensée s'y mette. Vous voyez? Il y a toujours eu comme ça des grandes tentatives de conciliation. Hein. Quand vous avez par exemple Augustin, saint Augustin, qu'est-ce qu'il fait saint Augustin? Qu'est-ce qu'il fait ensuite quelques siècles après saint Thomas d'Aquin? On peut dire, si vous voulez, je peux le dire de façon laïque, que font Augustin et d'Aquin, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de tricoter ensemble la pensée grecque la pensée chrétienne. Augustin va être le platonicien, donc il essaye d'articuler, c'est un des premiers pères de l'Église, il essaie d'articuler la pensée chrétienne avec le platonisme. Comme le feront d'ailleurs du côté musulman. Du côté musulman, vous avez par exemple ceux qu'on appelle les néoplatoniciens de Perse. Alors eux, ils vont essayer d'articuler l'ancien mazdéisme avec le platonisme venu des Grecs, avec les monothéismes, avec des mentions aux trois héritages musulmans, chrétiens et juifs. Bon, saint Thomas d'Aquin, il fera la même chose quelques siècles après avec Aristote, hein, en intégrant Averroès, voyez, qu'il appelait le commentateur d'Aristote. Donc je crois qu'à chaque siècle, il faut que du côté de la pensée, ça travaille pour articuler des univers de signification, de représentation. Puis après, je me suis rendu compte d'un truc, parce que ça, c'est un chemin intellectuel au long cours. Je travaillais sur l'islam, je travaillais sur l'islam, je travaillais sur l'islam, et en fait, je me rendais compte que je ne travaillais pas que sur l'islam. C'est-à-dire que tout en travaillant sur l'islam, je travaille sur des questions qui sont aujourd'hui des questions de tout, que nous nous posons tous. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs, pas seulement en écrivant, mais en discutant avec des lecteurs. C'est-à-dire que j'avais des lecteurs qui me disaient, vous savez, moi je ne suis pas du tout musulman, je connais d'ailleurs pas grand-chose à l'islam, mais en vous lisant, c'est entré très profondément en résonance avec des questions que je me pose vis-à-vis de mon propre héritage culturel, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, ou évidemment qu'il soit athée. Hein. Parce que pour moi, c'est ça le grand enjeu, si vous voulez. Le grand enjeu, c'est que, quand même, on danse au bord d'un gouffre, comme aurait dit Nietzsche, hein, et il aimait bien l'image de la danse au bord de l'abîme, on danse au bord d'un gouffre, c'est-à-dire que depuis 2 siècles, comme si de rien n'était, on fait comme si on allait pouvoir faire civilisation ensemble entre athées, agnostiques et croyants. Alors qu'il y a un fond d'écran de diversité de vision du monde qui est absolument prodigieux. C'est-à-dire que si vous allez au fond d'une discussion entre un athée et un croyant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est véritablement abyssal. Alors je ne dis pas irréconciliable, mais il y a tellement de travail à faire, voyez, entre celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, sans même parler de ce qu'il y a à faire entre les croyants eux-mêmes. Voyez. Mais quand on commence à réfléchir au fait qu'on est dans un monde aujourd'hui multiculturel, où toutes les visions du monde se côtoient tout le temps, où je suis tout le temps, moi le croyant avec un athée, moi l'athée avec un croyant, moi le croyant de telle obédience avec le croyant de telle autre obédience, moi qui ai tel rapport au religieux avec tel autre qui a tel rapport au religieux, moi le religieux avec tel autre qui a une foi, qui a un idéal, qui a un horizon, mais qui n'est pas du tout religieux, comment est-ce qu'on fait pour partager ensemble du sens? Et comment on fait, tiens, même encore plus ambitieux, pour partager ensemble du sacré? Et comment on fait, tiens, peut-être encore plus ambitieux, pour partager ensemble du spirituel, c'est-à-dire tout ce qui nous fait grandir en humanité, tout ce qui nous élève, alors qu'on a des conceptions de cette élévation qui sont très 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 différentes, des moyens de cette élévation, devenir de meilleurs êtres humains, réaliser des progrès d'être, des progrès de conscience, sur le plan personnel, sur le plan collectif, alors qu'on le fait de façon si différente. Comment est-ce qu'on va faire pour se retrouver? Bon, la réponse, elle est dans la question. Déjà, si on s'apercevait que, et si on acceptait de se laisser libres les uns les autres, à partir du moment où on voit que les uns et les autres, on est engagés dans un processus qui est profondément humain, qui est un processus d'humanisation, par lequel on essaie justement de faire éclore en nous notre humanité. Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte, en écrivant et en parlant aussi avec ceux qui me lisaient, que les questions que moi je posais à partir de la porte d'entrée islam, moi j'étais rentré par là, si vous voulez, dans un certain nombre de questions de notre temps, eh bien, ce sont des questions universelles. Et par rapport à ce que vous dites, donc, est-ce que c'est une proposition de sortir de la religion? Moi, je n'ai aucun conseil de vie spirituelle à donner à quiconque. C'est-à-dire, si l'un veut pratiquer des rites pour, comme support de sa vie spirituelle, grand bien lui fasse. Ça, bon. Simplement, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une grande discussion collective à réentreprendre entre athées, agnostiques et croyants. Et donc, en sortant de la religion, au sens où, en sortant de la conviction que les uns et les autres peuvent avoir que la vérité est détenue quelque part. De la même façon que la modernité avait cru résoudre la question, quand on a commencé à se séculariser à partir du siècle des Lumières, on a dit « Oh, ben, la religion, c'est l'opium du peuple. » On fait l'opium du peuple, l'illusion vitale, des histoires à dormir debout, etc., etc. C'est-à-dire, la plupart du temps, trop souvent, entre athées et croyants, des deux côtés, il y a la même conviction que l'autre, il est bien gentil, mais il se gourre. Voilà. Moi, je respecte, hein, je suis très tolérant. Hein, vous êtes athée, moi, je respecte, c'est trop tolérant. Sous-entendu, écoutez, vos pauvres garçons, vous faites ce que vous pouvez. Hein, mais quand même, si vous aviez la foi, ce serait mieux. Et puis, en plus, vous pouviez croire en Mohammed, ça serait encore mieux. Ou si vous aviez le Christ, elle est bien, votre religion, mais il vous manque le Christ. Voyez. Et chacun, comme ça, interminablement, pense que voilà, c'est ce qu'il a, lui, c'est quand même le mieux, que les autres sont très, très respectables. Et qu'on va pouvoir faire société comme ça, voyez. Et donc, dans une sorte d'inconscience collective, on laisse ouvert entre nous vraiment des gouffres.
Alors, une question toute simple. Maintenant qu'on connaît un petit peu, quand on a lu le livre, les valeurs qu'il faut partager, la question reste de savoir comment transmettre ces valeurs. Oui. L'éducation est quelque chose qui revient beaucoup quand on vous lit. Bah oui. Vous avez vous-même beaucoup œuvré à la pédagogie de la laïcité, je crois pour le ministère de l'Éducation. Donc voilà, je vous pose la question très simplement, comment transmettre ces valeurs aujourd'hui?
Oui, alors juste, je reviens sur un point de vocabulaire. Ce ne sont pas des valeurs qu'il faut partager. Je me méfie beaucoup du il faut et du on doit et du. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Oui, alors, bon, parce que en fait, je suis philosophe, mais j'ai un vrai métier, hein, je vous rassure. Parce que philosophe, on meurt de faim quand on est juste philosophe. Hein, voilà, où on en est réduit à se faire inviter tout le temps chez les autres, comme Socrate. Hein, donc, moi, j'ai été professeur de philosophie pendant très longtemps. J'ai enseigné en terminale pendant une dizaine d'années. Après, j'ai enseigné en classe préparatoire pendant une dizaine d'années. Et puis, j'ai été recruté, pas recruté, enfin sollicité en réalité, par le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire par le vaisseau mère, hein, rue Grenelle, pour venir travailler sur la pédagogie de la laïcité. C'était au moment où Vincent Peillon est devenu ministre de l'Éducation nationale. Et on a travaillé à la rédaction de la charte de la laïcité à l'école. Voilà, donc je fais partie du groupe qui a rédigé la charte de la laïcité. Et en effet, à partir de là, je me suis beaucoup engagé sur cette question de la laïcité. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus, etc. Voilà. Et aujourd'hui, je continue de travailler dans le cadre de l'éducation nationale. Je suis inspecteur général de l'éducation nationale. Voilà, je fais partie du groupe de philosophie. Et au sein de ce groupe et au sein donc de l'inspection générale, je travaille à ce qui a été mis en place. Donc là, je vais répondre directement à votre question. Je travaille à ce qui a été mis en place à la rentrée 2015. Donc on est quand là? On est en quelle année? 2016. 2016 après Jésus-Christ. A été mis en place à la rentrée 2015 un nouvel enseignement moral et civique. Alors, on a dit aux profs. Il y a des gens hein, très compétents qui ont travaillé là-dessus. Et on a demandé aux professeurs. D'abord, on a donné la possibilité aux professeurs une demi-heure par semaine de transmettre un enseignement moral et civique. Et on a les gens qui ont travaillé sur ce programme ont réfléchi au fait que transmettre la morale, c'était, vous savez, ça a eu un gros débat à un moment sur l'enseignement d'une morale laïque, après sur l'enseignement laïque de la morale, et finalement c'est devenu l'enseignement moral et civique. Bon, mais c'est bien, ça veut dire qu'on débat dans notre société. Et donc ceux qui ont institué le programme l'ont décliné en quatre parties ou en quatre moments: une culture de la sensibilité, une culture du jugement, une culture de la règle et du droit, et une culture de l'engagement. Voilà les quatre directions qui ont été données. Sauf que, bah, dit comme tel, ça reste un peu abstrait et un peu théorique. Et en tant que professeur, on peut se demander ce qu'on va mettre dans ces grandes cases. Vous voyez? Et on peut se sentir un petit peu démuni au moment d'arriver devant les élèves et de. Voilà. C'est pour ça que dans ce livre, voilà pour ma contribution à ce programme, à donner de la chair à ce programme d'enseignement moral, j'ai voulu non seulement donc mobiliser 30 notions, mais ces 30 notions, je les ai regroupées, j'ai montré comment eh bien, elles relèvent. De ces quatre grandes dimensions. Alors en réalité, après, moi, la culture de la sensibilité, du jugement, etc., je l'ai explicité de façon très simple comme la référence à un savoir-être avec soi, un savoir-être avec les autres, un lien à soi, un lien à l'autre, la qualité d'un certain lien à soi, la qualité d'un certain lien à l'autre, un savoir-être, un savoir-penser et un savoir-agir. Chose très très simple, voyez. Si je dis savoir-être, ça va renvoyer dans mon livre à des notions comme la simplicité. Qu'est-ce que c'est que se conduire avec simplicité? Ou qu'est-ce que c'est que se conduire avec humilité? Si je fais référence au savoir-penser, j'examine la vertu de lucidité. Qu'est-ce que c'est qu'être lucide? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à être lucide? Voyez? Si on pense au savoir-agir, tout à l'heure je mobilisais le courage. Ça peut renvoyer au pardon. Qu'est-ce que c'est que agir de façon fraternelle ou agir avec compassion? Voyez. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça aussi? J'ai fait ça parce que, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais moi ça me frappe depuis des années. Quand on parle de valeurs, Alors, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est qu'il arrive au mot de valeur, la même chose qui est arrivée, me semble-t-il, au mot de liberté tel qu'en parlait Paul Valéry. Paul Valéry, dans l'entre-deux-guerres, dans ses regards sur le monde actuel, Paul Valéry disait un truc sur la liberté qui est très juste. Il disait ce mot de liberté qui finit par avoir plus de valeur que de sens. C'est-à-dire, on l'a toujours à la bouche, mais finalement, à un moment, si on se demande, au fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut être embarrassé, vous voyez? Et donc, il finit, ce mot de liberté, par avoir plus de valeur que de sens. Ben, j'ai l'impression que le mot de valeur finit lui-même par avoir plus de valeur que de sens. Nos valeurs. Défendons nos valeurs. Retrouvons nos valeurs. Rassemblons-nous autour de nos valeurs. Pardon, excusez-moi de vous demander pardon, mais vous parlez de quoi exactement? Oh, mais monsieur, liberté, égalité, fraternité, respect, tolérance. Voilà. Voilà. Nous voilà habillés pour l'hiver. Donc. En réouvrant les livres, on s'aperçoit que le champ, si vous voulez, l'éventail des valeurs, justement, ou des vertus, hein, pour le dire donc de la façon la plus pratique, la plus agie, eh bien, que cet éventail est beaucoup plus large que ce à quoi on fait référence habituellement, et qu'il y a une espèce de pauvreté qui s'est installée, une espèce de réduction à minima de notre univers de valeurs. Vous voyez, regardez par exemple ce qui est arrivé à cette pauvre notion de respect. Respect, 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 respect. Oui. Comme si c'était vraiment voilà, le début et la fin de notre univers de valeurs. Bon. Tiens, d'ailleurs, une question qui est. Moi, je me souviens, en tant que professeur de philosophie, souvent, je faisais réfléchir mes élèves ou mes étudiants là-dessus. Qu'est-ce qu'on respecte chez l'autre? Pour qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait du respectable. Qu'est-ce qui est respectable chez l'autre? Très très vite, on arrivait, en réfléchissant à ça, à la notion de la dignité de la personne humaine. Manque de bol, en arrivant sur la dignité de la personne humaine, on tombe sur un terme qui est quand même très abstrait. Qu'est-ce que c'est que la dignité de la personne humaine? Qu'est-ce qui fait la dignité de la personne humaine? Parce que c'est notre dignité qui mérite le respect. C'est parce que nous avons une dignité d'être humain que le respect nous est dû. Et alors, dans ce cas-là, il faut élucider ce qui fait notre dignité, c'est-à-dire montrer la grandeur qui est dans cette dignité pour comprendre que la conscience de la dignité impose le respect. C'est-à-dire le respect, c'est pas assieds-toi et respecte-moi, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui s'impose à la conscience à partir du moment où cette conscience a conscience ou est conscience justement de la valeur ou de la grandeur de la personne humaine qu'on a en face de soi. Vous voyez? Voilà, donc bon, je me suis rendu compte que Et pour continuer de répondre à votre question, donc si vous voulez, j'ai voulu donner de l'aliment, ou donner de la chair, ou donner du contenu à nos professeurs, et après à nous tous, hein, évidemment, au moment où nous nous interrogeons à nouveau collectivement sur nos valeurs et sur ce que nous pouvons partager. Et puis, j'ai voulu aussi, en direction des professeurs, leur donner les moyens de faire quelque chose, de remplir leur mission, je dirais, par rapport à une difficulté, qui est une difficulté typique ou propre au présent. Aujourd'hui, nous le savons. Dans nos classes, si vous imposez quelque chose ex cathedra, si c'est le prof qui parle et les élèves qui écoutent, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ou ça rentre même pas souvent par la première oreille. Voyez? C'est-à-dire que quand vous avez une relation aujourd'hui avec des jeunes qui est une relation d'autorité classique, écoutez-moi, taisez-vous, ouvrez votre cahier, prenez des notes, pour être sûr que déjà, ils ferment les écoutilles. C'est fini. Si vous ne trouvez pas le moyen en même temps de transmettre quelque chose, on ne peut pas abolir le geste de la transmission. Comme le disait Hannah Arendt, notre premier devoir, nous les aînés, c'est de dire le monde aux jeunes, de dire voilà le monde. Donc on a à transmettre des héritages. Il ne faut pas laisser nos jeunes dans l'illusion qu'ils arrivent sur un terrain vague et qu'il ne s'est rien passé avant et qu'ils vont pouvoir tout inventer eux-mêmes. Non, il s'agit d'en faire d'abord des héritiers. Mais la difficulté, c'est comment en faire des héritiers alors que, d'une certaine façon, ils n'ont pas envie d'écouter. Pas facile. Vous voyez? Et donc, peut-être qu'une solution, c'est de les faire discuter. Et pour ça, de savoir, parce que ça s'improvise pas, de faire discuter une classe d'élèves, je le sais en tant que prof, il ne suffit pas de mettre une question au tableau, de dire, bon, alors, aujourd'hui, les enfants ou les jeunes, on va parler de la dignité de l'homme. Voilà. On y va. Ça marche pas. Il faut nourrir la parole. Donc, il faut leur proposer des textes, il faut leur proposer des grandes phrases, il faut leur proposer leur soumettre des problèmes, les mettre dans des cas de conscience, vous voyez, projeter un film, etc. C'est-à-dire, voilà, donner un aliment de départ et à intervalles réguliers, être capable en tant que professeur de réalimenter, hein, de réalimenter la discussion collective. Mais pour que chacun soit dans une logique qui est ce qui marche aujourd'hui, c'est une logique vraiment d'appropriation. Que chacun se prenne au jeu, de se dire, mais et moi au fait, comment je vais me positionner personnellement sur cette question? Donc c'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu justement, à chaque fois qu'il y a un chapitre sur une vertu, j'ai fait précéder d'un petit paragraphe qui a un questionnement. Voilà. Donc voilà les questions sur lesquelles, ensemble, on peut se questionner. Comme le disait l'universitaire américain, il est mort maintenant, Matthew Lipman, il disait, on a intérêt à constituer nos classes comme des communautés de recherche. C'est la grande expression de Lipman, les communautés de recherche. Vous voyez ? Donc, faire chercher ensemble. Et en plus, ça a cette vertu de faire chercher ensemble, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos classes, qu'au bout d'un moment, l'individu ne peut plus se dire, bah non, mais moi, j'ai la vérité. Et moi, j'écoute pas l'autre. Vous voyez ? C'est-à-dire, on travaille en même temps sur du sens et en même temps sur de l'éthique, sur l'éthique de la relation. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand vous constituez comme la classe comme une communauté de recherche, en l'alimentant correctement, eh bien, en même temps, vous introduisez une certaine qualité de relation. Vous faites entrer dans une certaine qualité de relation. Mais c'est très, très, très difficile. Et donc, le défi pour nous, institutions, je dis nous, là, je ne parle pas ici en tant qu'escalité, en ma qualité d'inspecteur général, c'est en tant que philosophe que j'écris ce livre, mais n'empêche que, quand je pense à mon métier d'inspecteur général, je me dis quelle est ma responsabilité avec d'autres. C'est de faire en sorte que dans les années à venir, et ça va être un travail de longue haleine, de former les professeurs, voilà, à ces pédagogies dans lesquelles ils puissent amener leurs élèves à se poser un certain nombre de questions éthiques.
Je vous remercie infiniment.
Ah, c'est fini ?
Oui, c'est fini, il faut que ça s'arrête. Désolé.
Bon, merci pour votre invitation, merci beaucoup.
De rien.